La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Difior. Prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, Florian Guettet pour parler ensemble de Pérégrination, un livre de Pierre Vatte publié chez Hazan. L'exposition Estampes d'Anthony Clavé, c'est à la Bibliothèque Nationale de France. Et enfin, le nouveau lieu du Palais de Tokyo, le Toguna. Aïssa Tundoy est également avec nous. Elle se connecte en ce moment sur le compte Twitter La Dispute FC. Si vous avez des commentaires à y faire, suivez donc ce fil. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute. Ce soir, des invitations pour Anna, le film d'Andreo Palaoro avec Charlotte Rampling qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute consacrée ce soir, non pas à la canicule qui fait dans ce studio, mais bien aux arts plastiques, avec un livre, une fois n'est pas coutume, un beau livre, signé Pierre Vatte, un historien d'art qui suscite toujours notre curiosité, nous entraîne cette fois dans une analyse, un regard sur la question du paysage, évidemment notion essentielle pour comprendre notre rapport au monde et à l'histoire, par la confrontation de l'individu et de la nature. Pérégrination. Pas mieux. Corinne Rondeau.
Alors, voilà un livre qui aurait pu s'appeler autrement, je pense. Par exemple, il aurait pu s'appeler « Est-il possible d'échapper à la tragédie ?» qui est une phrase, en fait, d'un texte que cite d'ailleurs Pierre Vatte dans un nouveau roman de Rob Grillet. Parce que, d'une certaine manière, c'est vrai que ce mot de tragédie revient souvent et dans une certaine mesure, c'est un livre qui m'a laissé un petit peu dubitative, même si j'avais beaucoup aimé son Turner à l'époque, parce que je trouve que c'est un livre qui hésite entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'histoire de Pierre Vatte, d'une certaine manière, puisque la fin du livre relate, d'une certaine manière, la période de son grand-père, Alexander Vatte, le poète, dans un Varsovie du ghetto juif tout à fait détruit. Donc on voit bien que le livre peut se lire à l'envers, dans la mesure où c'est vrai que la première partie m'a étonnée, parce qu'il y a de l'anachronisme. On peut dire que c'est pas un vrai problème pour les historiens, mais quand cet anachronisme devient un certain nombre de sauts, d'agrégations, de rencontres qui ne soient pas tout à fait historiques, mais très étonnantes, puisqu'il commence avec Friedrich, puis Turner, puis en fait on a Thomas Cole aussi, mais dont les rapports ne sont pas du tout identiques entre eux. D'un côté, on a le romantisme, on connaît Pierre Vatte, effectivement, c'est d'abord un historien du romantisme. Et puis, on a le Thomas Cole qui, lui, relève en fait d'un cycle sur la naissance et la destruction. Donc, d'abord, j'ai pas très très bien compris ce rapport, ces trois peintres qui inaugurent son livre. D'autant qu'à l'intérieur de ça, on a des images, une très belle iconographie de ce livre d'ailleurs, plus contemporaine, notamment Elina Boterus. Mais juste avant, Anselm Kiefer, les premières heures avec le salut nazi, et qui est une manière de retourner ce personnage qui est le Wanderer, ce marcheur en haut
de la montagne de Friedrich.
Je trouve que c'est ces images-là, d'un coup, nous annoncent quelque chose d'un 20e siècle, alors qu'on est au 18e. Et donc, c'est vrai que entre ça, et puis très vite, donc Anselme Kiefer, mais aussi une photographie de photoreportage de Suzanne Mézélas, qui est en fait un corps mort dans un paysage où on a des jambes et puis une colonne vertébrale, on se dit, bon, bah, quelque chose pue dans le paysage. Alors, c'est pas du Shakespeare, malheureusement, je dirais. Et donc, je suis évidemment allée à la fin, puisque le sommaire nous annonce Varsovie 2. Bon, voilà. Et on voit bien que de mon point de vue, ce livre est écrit à l'envers. C'est-à-dire que comment on peut être à la fois un historien, qui relève, je dirais, d'un certain nombre de concepts, en tout cas de périodisation, et comment on peut faire dire au romantisme ce que peut-être il n'est pas, mais simplement parce que justement on a une autre histoire à raconter. Donc pour moi, ce livre hésite entre une thèse d'historien et un essai personnel, et donc cette ambiguïté ne lâche pas tout le long du livre. Et moi, ça me pose un problème parce que je vois pas pourquoi les historiens d'art ne pourraient pas faire d'essai, c'est-à-dire qu'ils prennent le risque, d'une certaine manière, de faire un chemin. Mais en même temps, ce chemin qui est celui du marcheur, qu'il évoque, l'historien devrait être un marcheur, en évoquant le chercheur de traces, qui est quand même un tectime Kertész, qu'il cite hein, parfaitement. Mais effectivement, dans le livre de Herme Kertész, un auteur que j'aime beaucoup, il y a quand même un des personnages qui dit « Je suis là pour réparer des injustices ». L'autre personnage lui dit « Mais avec quoi ?» Et c'est vrai que la question de la possibilité du témoignage est dans le livre de Pierre Vade, c'est écrit noir sur blanc. Le problème, c'est que la fonction de l'historien, ce n'est pas de témoigner. La question de l'historien, c'est justement de cadrer des périodes à partir desquelles on peut repenser des périodes qui ne sont pas les nôtres et dans lesquelles on ne vit pas. Donc effectivement, on ne vit plus le XXe siècle, on ne vit encore moins le XVIIIe siècle. Mais cette manière de dire que finalement, Turner annonce Auschwitz, je suis un peu agacée.
Frédéric Bonnet, sur ce livre de Pierre Vatte, Pérégrination.
Oui, bah je l'ai lu de manière un peu douloureuse aussi, à la manière de la thématique, pardon, je suis un peu enrhumé ce soir, à la manière de la thématique qu'il déroule. Et je suis très content d'entendre Corinne, on s'en est pas parlé avant, mais parler d'un livre écrit à l'envers, parce que justement, j'ai commencé à le lire à l'envers. Parce que, en lisant le sommaire, j'ai été très intrigué de voir ce dernier chapitre intitulé « Varsovie 2 ». Donc évidemment, je suis allé voir tout de suite ce dont il retournait. Ce dont il retourne, c'est donc un chapitre qui est consacré, qui prend comme point de départ la série de photos du photographe Chim, un photographe de Magnum, qui, après guerre, est allé faire tout un travail sur le ghetto de Varsovie rasé et Varsovie 2, parce que Pierre Vatte relate Varsovie avant la guerre, Varsovie rasée, et puis Varsovie 3, qui serait Varsovie reconstruite sous le modernisme communiste, on pourrait dire. Et effectivement, arrivé au terme de ce chapitre, je me suis dit, voyant arriver l'évocation de son grand-père et de la poésie de son grand-père, je me suis dit, il nous a quand même pas fait 250 pages ou un petit peu plus, juste pour développer une catharsis familiale. Et au final, si, c'est vraiment ce qui se produit, parce que ça se termine véritablement là-dessus, et d'autant que, là aussi, je rejoins Corinne, je trouve qu'il y a des choses assez contestables dans l'ouvrage. Alors, c'est érudit, ça enfile les citations comme les perles, ça cite Goethe, Chateaubriand, blablabla, qui veux-tu, bon, voilà, qui voilà. On n'en manque pas, tout ça est très bien fait, mais au final, il y a quand même des affirmations péremptoires qui, moi, me laissent un peu circonspect, pour dire le minimum, notamment s'agissant de la figure de Friedrich, qui est centrale, en tout cas au début de l'ouvrage, c'est l'argumentaire. Affirmer que personnage de Friedrich perdu face au-dessus des le Wanderer au-dessus des nuages Il dit là, alors là je le cite, c'est notre relation à l'histoire qui se donne à voir. C'est contestable parce que c'est peut-être le cas, mais là il affirme, la manière dont c'est affirmé, ça veut dire que ça n'est que ça. Mmh. La nostalgie contemplative chez Friedrich, elle est aussi spirituelle. Elle peut être historique, mais elle est aussi spirituelle. Elle est largement spirituelle. Et cette dimension-là est complètement gommée, de même que, alors, quand on avance, on voit bien la mise en place de cette histoire tragique du paysage, puisque dans cette histoire-là, l'histoire rime avec la tragédie. Donc il y a une relecture de l'histoire du paysage à l'aune du drame et de la tragédie, absolument en tous sens, qui amène quand même à relire tout le 19e siècle en omettant parfaitement l'impressionnisme. Quand on fait un bouquin sur le paysage, qu'on recouvre tout le 19e siècle et qu'il n'y a pas un mot sur l'impressionnisme, ça pose quand même un problème, mais évidemment, ça ne rentrait pas dans la thématique. Forcément, ça coinçait un petit peu. C'est un petit peu problématique. Il y a quand même juste une évocation de Monet un petit peu plus loin dans l'ouvrage pour parler des Nymphéas comme d'un enfouissement et dans Champs de Ruines. Bon.
Bon, Florian Guettet, quelle lecture avez-vous faite de Pierre Vatin?
Ce qu'on ne voit pas au premier abord sur la couverture, c'est déjà le titre. Parce qu'en fait, paysage est mis vraiment en gros, en très gros, tandis que le vrai titre, le premier titre qui est Pérégrination, est un peu plus invisibilisé. Et pourtant, cette errance du vendeur qui ouvre le livre va être le fil conducteur de tout cet ouvrage. Et c'est là, à mon avis, où c'est effectivement problématique. Parce que cette figure de celui qui erre sans but, qui est finalement commune à la fois à l'historien et à l'artiste, ça c'est une thèse qu'il pose dès le début, me semble absolument factice, à mesure où il sait très bien où il va. Effectivement, comme l'ont rappelé mes confrères ce soir, dès les 20 premières pages, en fait, nous avons quand même deux évocations d'Hitler sur Turner et sur... donc en fait, il parle d'Anselm Kiefer, il parle de George Grosz avec un Hitler en enfer, ça c'est dans les 20 premières pages, et puis ensuite ça va continuer tout le long jusqu'à Richter et la figure d'Hitler retournée, un paysage qu'il peint au dos d'un portrait, et puis jusqu'aux photographies des ghettos de Varsovie après la guerre. Donc ce chemin sans errance, en fait, est un chemin très balisé. Et c'est problématique pour moi dans la mesure où ça trace une forme de ligne causale ou finale qui est tout à fait problématique. En fait, il me semble que ça réarme une figure de l'artiste romantique tel qu'on pouvait en parler au 19e, qui est l'artiste prophète ou visionnaire, et qu'effectivement dès le début du 19e siècle on aurait déjà une sorte d'intuition ou de lecture a priori de ce qui va devenir l'inquiétude du monde contemporain, la tragédie du 20e siècle, etc. Et effectivement ça c'est pour le moins contestable, d'autant qu'il y a une récurrence très forte, une forme de fatalisme. On a souvent les mots fatalisme, destin, etc. Quand il parle du coucher de Turner, il dit finalement le coucher de soleil de Turner c'est le déclin de l'Europe, ou la peinture de Thomas Cole, c'est le sens de l'histoire que d'opposer la wilderness, la sauvagerie, à l'industrialisation des paysages américains. Là aussi, ça fait quand même des raccourcis assez rapides. Alors, au-delà donc de cette figure de l'historien qui est pas très objective finalement, on a cette vision du paysage qui va devenir une forme de lieu symptomatique ou un lieu sémiotique où il faudrait lire la tonalité d'une époque et puis même de tout ce qu'elle est grosse de son avenir. Et ça me paraît vraiment débordé de la thématique même du paysage et du rapport de la nature à l'histoire. D'ailleurs, c'est pas vraiment l'histoire en tant que telle, c'est l'histoire européenne et disons clairement la Shoah, puisque ça va vraiment dans ce sens-là. Alors, moi, ça m'a rappelé en bon Nietzschéen que Nietzsche parle de l'histoire en disant il y a trois manières de faire de l'histoire. Soit on fait de l'histoire monumentale, donc on érige des monuments. Et là, Pierre Vatin dit finalement le paysage, c'est l'anti-monument parce que précisément, ça ne montre pas. On n'est pas dans quelque chose de vertical, mais à l'horizontale. On ne célèbre pas, etc. Ensuite, il y aurait l'histoire des antiquités. des reliquats. Et là aussi, Pierre Vade dit que le paysage n'est pas cette histoire-là, hein, donc, même si Nietzsche n'est pas sa référence. Enfin, n'est pas sa référence avouée, parce qu'il part quand même de la joie tragique, mais il ne ramène pas à sa première occurrence, qui est la philosophie nietzschéenne. Et donc finalement, il y a la troisième voie qui est avancée par Nietzsche, qui serait la voie critique. Et là, moi, je trouve que c'est là où ça pêche, parce que précisément, on n'a pas une histoire critique, on n'a pas une histoire critique de l'histoire, ou même de l'histoire de l'art, ou même des peintres qui se positionneraient par rapport à cette thématique-là historique. Donc je trouve que c'est un livre qui va droit au but, mais qui oublie que les bas-côtés auraient été intéressants à explorer.
C'est vrai qu'il peut y avoir un malentendu concernant ce livre, alors malentendu dont j'ai été la première victime, et vous, une victime collatérale, je dirais, puisque je vois arriver un beau livre de Pierre Vade sur la question du paysage, je me dis, c'est formidable, on va pouvoir en parler dans cette émission, et on se retrouve, comme le disait tout à l'heure Corinne Rondeau, avec un essai très personnel, ce qui est tout à fait le droit des historiens de l'art, mais ça, enfin, il y a vraiment un hiatus entre ce qu'on peut imaginer être un beau livre des éditions Hazan, tout à fait respectable, et un essai qui pourrait paraître dans un format, je vais dire, plus petit, et parce que le problème, c'est que, bon, ben, vous l'avez tous dit, et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, c'est qu'il y a une lecture très univoque, en fait, quand vous dites droit au but, c'est ça, enfin, tout est à charge ou à décharge, enfin, plutôt à charge en l'occurrence, et donc... On peut avoir envie de suivre Pierre Vade dans ses pérégrinations mentales, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de malentendu entre ce qu'on pourrait penser vouloir acheter quand on retrouverait ce livre, on trouverait devant ce livre dans une librairie, et puis ce qu'il est réellement. Corinne Rondeau.
Oui, c'est vrai. J'ai eu le même comportement que vous. Formidable. J'avais beaucoup aimé son turner, que je lui trouvais une dimension beaucoup plus virile, je dois dire, d'affirmation très très forte. Là, je trouvais que la prose était un petit peu empathique, une certaine volonté de pacifier les choses. Je regrettais que Gérard Wachmann, qui avait beaucoup travaillé sur Göran Gers, notamment sur le monument invisible, ne soit que mis en note, et encore pas là-dessus, mais sur ce qu'il a opposé à Didier Huberman, alors que Didier Huberman est cité lui dans le texte. Je crois que la question du contre-monument n'est pas une invention, malheureusement, de Pierre Vade. Ce qui est malheureux, c'est de se dire qu'on ne peut parler que du paysage à l'aune, justement, de cette question historique. Je crois qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes héritage, que c'est très difficile d'avoir l'héritage que sans doute il a eu. Je pense que l'essai aurait été la meilleure fenêtre pour qu'il l'affirme. Parce qu'en fait, il y a un enchaînement de la théorie. Je crois que moi, ce qui m'a profondément agacée, indépendamment de toute cette partie que j'attendais, parce que c'est un livre, en fait, qui est d'une telle rhétorique, que là où il l'ouvre pour laisser une piste, on sait qu'on va la retrouver et il va totalement obturer là où il pourrait y avoir une discussion. Donc en fait, il tient absolument son livre, justement parce qu'il a été construit à l'envers. Quand vous faites le chemin à l'envers, vous mettez ce qu'il faut dans les trous que vous pourrez trouver. Donc, cette manière aussi de dire la Shoah, puis ensuite le génocide au Rwanda, moi, c'est des choses qui m'insupportent parce que je pense que... Tuer, c'est une monstruosité, mais on ne peut pas passer sans rien dire entre une mort industrielle, enfin une industrie de la mort, et un génocide monstrueux, mais qui est quand même ethnique. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion. D'ailleurs, je ne veux pas en discuter, mais pour moi, il y a encore un problème qui est une vieille chose depuis 20 ans où j'ai déjà entendu ces choses-là. Donc, je trouve ça quand même assez regrettable. Et moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que j'en ai marre de la conscience malheureuse. Parce que dans la page que j'ai citée, je disais, est-il possible d'échapper à la tragédie, ça aurait pu être le titre du livre de Pierre Vade, il y a dans la même page de Rob Grier ce mot de conscience malheureuse. Et on est en 2018 et j'en ai marre, mais je vous le dis, mais avec beaucoup d'énervement en moi, j'en ai marre de cette conscience malheureuse, j'en ai marre de cette fin de l'histoire, j'en ai marre d'une certaine manière qu'on soit... Parce qu'en plus, dans le livre de Rob Grier, il y a marqué que puisqu'il utilise une autre expression de Rob Grier, la tragification systématique de l'univers. Mais Rob Grier dit aussi qu'il y a quelque chose d'une volonté délibérée et qu'il voudrait voir et chercher plus loin. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, la conscience malheureuse, ça fait longtemps qu'on l'a. Je veux dire, Fondane a aussi en écrit un texte. Je crois que si on n'accepte pas de perdre l'estime du savoir qu'on a pour le savoir, on devient un homme enchaîné à la théorie. Et c'est là qu'il y a un homme du tragique. Et moi, j'ai envie de dire qu'on peut être debout, que la vie vaut mieux que cette conscience malheureuse, que j'ai envie de dire que nos vies peuvent être prodigieusement belles, que j'en ai marre qu'on nous saoule avec ce 20e siècle, même si je suis pour qu'on en parle, mais il faut arrêter. Et là-dessus, je finirai juste par un mot, enfin, une citation d'un film de Chantal Akerman dans « Demain, on déménage ». « Tout est possible avec de l'imagination. Vous avez de l'imagination ? Bien sûr, vous verrez que dans le film de Pierre Vatte, attention, c'est dangereux l'imagination. »
Frédéric Bonnet, pour un dernier prise de parole.
Oui, non, je partage complètement ce sentiment de Corinne, d'autant que l'aspect pathos qui traverse vraiment tout l'ouvrage est accentué par l'écriture. C'est pas seulement les images, c'est pas seulement le propos, c'est pas seulement le fond, encore une fois, parfois contestable, parce que je crois aussi que c'est contestable d'affirmer que le paysage est une condition absolue de la compréhension de l'histoire. Ça peut être un des éléments, mais ça ne peut pas être que ça. Et donc, au milieu de tous ces arguments parfois contestables, il y a vraiment un ton très pathos qui rend la lecture assez pénible.
Florent Gaieté, pour terminer.
Oui, non, pour amener de l'eau au moulin de Corinne.
En a-t-il besoin?
Non, mais c'est vrai qu'il y a une marche post-Shoah, quoi. Il y a une histoire qui continue après ça, et c'est vrai que cette errance du Wanderer au début, qui se finit finalement avec le Juif errant, quoi. C'est ça la ligne qui est tirée. Sauf qu'effectivement, il y a quand même une histoire de l'art contemporain, notamment avec la marche, dont on va parler beaucoup d'Avila, avec notamment des gens comme Francis Alice, qui redécouvrent aussi le paysage dans la globalisation, qui redécouvre aussi le paysage avec la vie ou la nature qui reprend ses droits, avec le ruderal, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent depuis, on va dire, 60 ans, qui sont complètement tues, puisque là, on va s'arrêter à peu près à Amish Fulton, hein, en gros, quoi, sur la fin. Et qu'effectivement, il y a des raisons, je pense, de croire en l'idée que le paysage n'est pas qu'un symptôme nihiliste ou désenchanté.
Pérégrination, c'est le titre de ce livre, même si on ne le voit pas bien sur la couverture, de Pierre Vatte, publié chez Azan. On voit en gros paysage entre nature et histoire. À suivre dans la dispute, Anthony Clavé et le Toguna.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques avec la petite exposition que la BNF consacre aux estampes d'Anthony Clavé suite à la donation de 92 estampes par les petits-enfants de l'artiste qui est mort en 2005. Une cinquantaine de ces estampes sont visibles en ce moment dans la galerie des donateurs dans un commissariat de Céline Chicha-Castex et Aude Engen. Besoin d'un peu de musique de Paul Erskine pour calmer les esprits. Enfin, on est là pour dire ce qu'on pense des sujets soumis à ce sommaire. Donc là, c'est au tour d'Anthony Clavé, bon, qui n'est plus là, hélas, pour nous entendre, mais de cette exposition à la BNF. Frédéric Bonnet, peut-être qu'il faut quand même un petit peu situer Anthony Clavé. Avant de parler
oui,
de ses estampes.
Oui, il faut d'autant mieux le situer que c'est un artiste qu'on voit pas et qui mériterait qu'on s'y intéresse un peu plus. Et un peu plus qu'avec cette exposition qui est très très réduite. Alors c'est toujours mieux que rien, on va dire, mais c'est vrai que...
elle existe, je le dis, pour la donation, sinon elle n'existerait pas.
Voilà,
galerie de, il y a une donation, c'est galerie des donateurs, on fait une petite expo.
C'est ce que j'appelle une expo prétexte. Il y a eu une donation, il faut rendre hommage, dire merci, voilà, c'est fait, ciao. mais bon, l'expo à faire, elle reste
à
toujours
faire.
À faire, parce que Clavé, c'est un artiste catalan qui est né en 1913 et qui s'est installé après la guerre civile espagnole en 39 à Paris, comme beaucoup d'artistes, hein, poussés au-delà de la frontière. Et moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Clavé, c'est un artiste justement qu'on a du mal à situer. Il y a n'importe qui rentre dans la petite galerie là de la BNF verra effectivement des accents très hispaniques, très catalans. Il y a des choses de Miro, de ta pièce qui viennent immédiatement à l'esprit. Mais en même temps, ça reste un personnage singulier, parce que ça n'est pas que ça, et c'est une abstraction qu'on n'arrive pas à cataloguer. C'est Pierre Dex qui disait que Clavé était ni d'une école catalane, ni de la prétendue école de Paris. Ouais. C'est assez intéressant, ouais. Parce que c'est un travail qui défie complètement les catégories. Et d'ailleurs, Skira vient de publier le catalogue raisonné des gravures et des estampes, et dedans, il y a un texte de Thomas Lawrence, l'ancien directeur de la Reina Sofia à Madrid, qui est assez intéressant justement dans cette manière avec laquelle il analyse ce mélange d'abstraction et de figuration qui fait que le personnage nous échappe et son travail aussi. Alors après, pour que ça échappe complètement, c'est vrai qu'il faudrait voir une expo avec des tableaux. Là, il n'y en a pas, et pour cause, puisque il s'agit des gravures, même si c'est pas du tout inintéressant. Et puis ça permet de se faire quand même une idée de la chose.
Florian Guettet sur Anthony Clavé, c'était un artiste qui était dans votre univers mental ou pas? Non, pas du tout. Alors quel type de découverte en réel avec lui?
Effectivement, il échappe à beaucoup de catégories. Pour moi, il échappe aussi à catégorie artiste ou artisan, parce que finalement, c'est quelqu'un de très matériel, c'est un technicien. On le voit d'ailleurs dans le court extrait de vidéo, où on le voit à l'œuvre avec un soin, sa presse, etc. Sa grosse moustache, on apprend aussi qu'il travaille en musique. Bon, ça donne un côté un peu garage champêtre. Moi, j'ai pas été très touché, en fait, par ces estampes. Alors, j'essaie de me concentrer sur justement les apports, les innovations, on va dire, techniques qui pouvaient marrer. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire comme ça de l'estampe contemporaine qui est faite à travers son œuvre. Donc il commence avec des lithographies dans les années 60, il se met aux eaux fortes. En 68, découverte du carborandum qui va devenir, en fait, jusqu'à aux années 90, sa technique de prédilection. Des gaufrages dans ces gravures là dans les années 70, il va se mettre un peu plus à des formes de déchirure, de collage. Il va intégrer plus de façon plus évidente des signes, des étoiles, des sortes de petits pictogrammes, etc. À ce moment là il fait beaucoup d'aquatinte, hein, les eaux fortes en aquatinte. Et puis 77, il se met, alors c'est peut-être ce qui m'a intéressé le plus, il se met à faire des papiers froissés. Qui donne une sorte de fuite en avant dans une abstraction très matérialiste, en fait, qui me ferait presque penser parfois un peu comme ça du Buffet, ou voilà, avec une sorte de trompe-l'œil. Et puis dans les années 80, 90, là on voit qu'il va juste profiter de sa reconnaissance, qu'il va être un peu moins dans l'expérimentation, sauf sinon cette sculpture monumentale qui va être une commande de la ville de Barcelone, où il va appliquer en fait tous les principes de composition, de collage qu'on peut voir en fait dans les estampes, à une dimension plus monumentale. Bon, on la voit pas dans l'exposition, mais ça peut être un bon vecteur pour aller s'intéresser à ça. D'autant que donc on a une quarantaine à peu près, hein, d'estampes entre les années 50 et 80, fin des années 50 et les années 80, et on a au milieu quelques exemples de livres illustrés, puisque ça a été un illustrateur pendant très longtemps, illustrateur de poésie, illustrateur notamment de Saint-John Perse, avec la gloire des rois, je crois, oui, la gloire des rois, et ou Peter Segers, et puis le Gargantua de Rabelais aussi, qui va être très très important pour lui. Et il me semble que finalement, il a du mal à sortir du modèle, en fait, quelque part. C'est peut-être aussi ce qui fait son hésitation entre l'abstraction et la figuration. Il se rattache souvent à quelque chose. On a beaucoup d'hommages, par exemple. Il donne des hommages à Goya, à Rembrandt, à Greco, à Picasso. On a quelques-uns dans l'exposition. Et au-delà de ces hommages-là, son travail propre, son style, c'est vrai, est quand même assez difficile à qualifier, en fait. Donc là, je suis bien en peine de vous en dire, sinon de le décrire, quoi. C'est tout ce que je pourrais faire. Mais je suis restée dans cette forme de distance-là. Ah non, peut-être une litho des débuts qui s'appelle El Caballero D, trois petits points, comme une suspension comme ça, qui m'a fait penser à du Hartung, où on voit au début quelque chose de très nerveux, en fait, dans son trait, très, très expressionniste, mais finalement, donc voilà, avec une sorte de visage qui s'efface, des griffures, quelque chose d'un peu, voilà, un peu cicatriciel, mais je peux aimer ça, mais qui en fait va beaucoup s'adoucir, ouais, se rasséréner en fait tout au long de son œuvre, même dans les focus sur les instruments de musique, on voit en fond de trucs, bon, qui m'ont laissé un petit peu froid.
Corinne Rondeau, votre regard sur cette exposition des stampes d'Anthony Clavé à la BNF?
Partagé par mes camarades, et en même temps, c'est vrai, c'est le nini. C'est Anthony Clavé, c'est ni la seconde école de Paris, même si effectivement il pourrait y avoir un peu de Hartung ou de Buffet ou effectivement les Mathieu, enfin tout ce qu'on a de la seconde école, ni une abstraction informelle, ni un nouveau réalisme, parce que c'est aussi toutes ces périodes vers lesquelles il pourrait tendre. C'est quelqu'un qui est trop jeune ou trop vieux selon les générations, ce qui fait qu'en fait il est toujours marginal. Et par contre, je trouve qu'il se tient à cette marginalité, même si effectivement on a du mal à le classifier, on a du mal à lui donner un style. Mais en même temps, c'est peut-être ça son style, de n'être ni là ni là. Et d'ailleurs, il y a une œuvre qui s'appelle, c'est une eau-forte, qui s'appelle « On dirait un instrument ». Et donc, je me suis arrêtée sur ce titre « On dirait ». Et en fait, lorsqu'on voit antérieurement, « On dirait un instrument », c'est de 1977. Vers 1966, il fait un « D'après Rembrandt ». Et qui ressemble effectivement à du Rembrandt. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je lui ai dit « Oh, tiens !» Mais ce n'est pas du Rembrandt. Ça ressemble à du Rembrandt, mais ce n'est pas du Rembrandt. Donc, en fait, il est dans le travail de donner une image à quelque chose qui ressemblerait à sans l'être. Et en fait, j'ai l'impression que tout son travail relève de cette idée-là. C'est-à-dire de travailler sur le report de l'image qu'on connaît. Et le travail et Florian l'a dit, ce côté de la matière qui est très présent, les gaufrages, cette manière dont on a, et ça c'est qui m'a intéressé beaucoup dans l'exposition, ce sont les matrices de gravure, puisqu'en fait c'est de la matérialité, ce sont des agrafes, des punaises, du fil de fer, du bois, et en fait quand on les regarde d'une certaine distance, on se dit mais c'est une litho, c'est quoi? Non, mais c'est une matrice de gravure. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la matrice de gravure. Beaucoup plus que les lithos. Et donc, il cherche le relief. Et je crois qu'en fait, là où il veut être, entre l'artisan et l'artiste, c'est de donner du relief à une image qui n'est pas un modèle, mais il va donner du relief à quelque chose qui n'est pas de lui, mais qui va devenir à lui. Et ça, peut-être que c'était parce que j'étais intriguée par ses gants. Il laisse beaucoup de gants dans ses œuvres. Bon, et c'est vraiment le travail de la presse, là. Ces marouflages qui sont très présents, ce gant. Vous savez, ça pourrait être des œuvres qui s'intituleraient « Fait avec le gant ». Oui, mais quelle main? Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas la main. Donc, quand il n'y a pas la main, est-ce qu'il y a du style? Et en même temps, il y a quelque chose. Et je crois que c'est quelqu'un qui a été au service de quelque chose. C'est-à-dire notamment la poésie, avec Pierre Segers, vous l'avez dit. Moi, j'ai acheté un livre de poésie de Pierre Segers, justement à l'occasion de... Enfin, quand je suis sortie de la bibliothèque... Enfin,
de l'exposition.
Galerie des donateurs. Et parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et en fait, on voit qu'il est à côté. Mais il est à côté, peut-être, selon le principe que lui avait donné Saint John Perse. Il dit, non, mais moi, je veux pas d'illustration. en quoi Saint-Jean de Perse avait raison. Et en même temps, c'est aussi un très bon conseil qu'on peut donner à, justement, un graveur ou un lithographe. Saint-Jean de Perse a dit, mais moi, je préférerais quelque chose qui est de l'ordre de la typographie. Et donc, forcément, c'est l'idée du motif qui est dissocié ou qui est défait d'autres motifs pour donner un plan. Et dans ce plan, il y a des rapports de tension. Et en fait, ce que moi, je suis pas très sensible à ce que fait Anthony Clavé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il cherche des rapports de tension entre quelques points de couleur, des aplats de zones sombres, puis justement quelque chose qui est beaucoup plus physique, et c'est ce gant, ou la punaise, ça veut dire qu'on a planté, il y a eu une pression. Je crois que c'est l'homme de la presse. Voilà. Et tout ce qui est de sa main, c'est la main qui va accompagner une presse sur un papier avec ce qu'il aura fait, soit une pierre de lithogravure, ou justement toutes ces choses qu'il va amonceler sur la plaque, qui va donner un certain nombre d'états de la planche, qui va nous dire, ben voilà, il y a des variations, mais ces variations ne sont pas faites pour être jolies, elles sont faites pour créer des tensions, comme deux mots peuvent avoir des tensions. Si je dis je suis, c'est tout à fait autre chose que si je dis je suis un, et si je suis un idiot, ben voilà ça. Et je crois qu'en fait, il fabrique en fait ces eaux fortes, avec ça en tête, et je crois qu'en fait, c'est là, au-delà de tous ces modèles qu'on voit très bien, Goya, vous l'avez dit, Velázquez, il y a même la signature qui reprend d'Albrecht Dürer, le A avec le D à l'intérieur. Et en même temps, ce ne sont pas des hommages, ce ne sont pas des copies, c'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est quelqu'un qui vient mettre une pression, qui vient mettre peut-être même une caresse sur quelque chose de l'histoire, sans vouloir être cela, ceci, mais participer à ce grand mouvement où il y a des mots, où il y a des œuvres, où il y a de grands artistes. Et puis, il y a d'autres artistes qui sont aussi des artisans, des super techniciens, et qui accompagnent la culture. Donc, voilà.
Mais peut-être Frédéric Bonnet, avec cette exposition Anthony Clavé, pour qui connaît peu ou pas Anthony Clavé, c'est-à-dire quand même beaucoup de gens, est-ce que ça donne pas une lecture biaisée de son travail, enfin en tout cas très parcellaire, parce que quand on fait de l'estampe, de la gravure, c'est une pratique qui permet généralement, alors soit des expérimentations, soit pourquoi pas des sortes d'hommages, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est quand même... Anthony Clavé, ça ne se résume pas à ce travail-là?
Ben non, complètement. C'est pour ça que l'exposition, elle est quand même assez périlleuse, parce qu'elle est toute petite, il y a une cinquantaine d'œuvres, et effectivement, uniquement, hormis les deux matrices, qui moi aussi, je suis complètement de l'avis de Corinne, m'ont assez retourné, j'ai trouvé que justement, le travail prenait un autre corps, et prenait une autre dimension, et que s'incarnait une dimension qui est absolument fondamentale, une idée fondamentale dans le travail de Clavé, qui est celle du bricolage. Du bricolage constant, justement pour rester à côté, comme vous le disiez Corinne. Et c'est vrai que cette galerie est minuscule, c'est accroché à la touche-touche. Moi, quand je suis rentré, j'ai un peu eu un mouvement de recul en disant, mais qu'est-ce que c'est? Et effectivement, on aurait peut-être pu prendre la peine, alors en même temps je sais pas où on l'aurait mis, mais accrocher un tableau, un ou deux tableaux, pour montrer quand même. Qu'il y a autre chose, et que...
Oui, il n'y avait pas la place, là, dit.
Voilà, cette activité de gravure et d'estampe a été très importante pour Clavé, mais ça n'a pas été que ça. Et effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il peut rapidement passer à côté complètement.
Voilà, ce qui est peut-être vous est arrivé, Florian Guettet.
Ah oui, mais je l'assume.
Non, mais je sais, je ne dis pas que vous ne l'assumez pas, au contraire.
Non, mais en plus, c'est vrai que ça m'a presque donné l'impression, alors, je vais peut-être faire bondir mes camarades, mais de quelque chose d'assez désincarné. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu le trait du corps, et effectivement, vous parliez d'une caresse. Bon, alors, qu'est-ce que c'est caresser avec un gant? Parce que, effectivement, le gant est très présent. Et il y a quelque chose de très froid, très technique, très technicien. Quand, en fait, il est resté affichiste, illustrateur tout au long de sa vie, mais il y a métier qu'il a abandonné, qui est décorateur de spectacle. Mmh. Et effectivement, c'est vrai qu'il a gardé le côté, il me semble, déco, le côté ornemental, hein, avec vraiment une importance du motif, les empreintes, les papiers peints, les feuilles, les signes qu'on a dit tout à l'heure, les mains, les arabesques, etc. Le pochoir même, hein, quand même. Donc il a gardé ça, et puis il a oublié le spectacle du vivant, il me semble. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça, quoi. J'ai pas réussi à être touché par ça, j'ai pas réussi à y voir. C'est pour ça que le début m'intéressait, quand on voyait des choses un peu plus nerveuses, qui semblaient presque lui, le déborder, et qu'à la fin, en fait, tout me semble beaucoup plus structuré, même quand il déchire le portrait de la jeune fille hyper réaliste, Mademoiselle Marguerite, là, même quand il déchire ça, enfin, j'arrive pas à voir la patte, j'arrive pas à voir la main, donc c'est vrai que ça m'a pas donné envie de me plonger dans cette œuvre qui doit être passionnante par ailleurs, mais qui pour l'instant me reste un petit peu éloignée.
Corinne Rondeau, pour terminer, sur Anthony Clavé.
Mais Florian, je dis, c'est fait avec la main. Où est la, c'est fait avec le gant. Où est la main?
Dans le gant.
Dans le gant. Mais alors, donc, justement, en même temps, vous avez parlé de cicatrices tout à l'heure.
Ah non, mais je vous caresserai avec un gant. Vous me direz si c'est la même chose qu'avec ma main.
Mais justement pas. Bon, d'accord. De toute façon, on va faire de l'entre-soi, donc on va s'arrêter là. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas une mise à distance quand même très, 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 très grande. Même ses titres, drôle d'instrument, instrument étrange, il est dans une fabrication. Le mot de bricolage est assez judicieux, finalement, pour lui. Parce que moi, quand je vois les agrafes, quand je regarde cette matrice, je me dis, mais qu'est-ce que tu allais me faire, là? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les gaufrages, par exemple, il y a souvent une structure qui est rectangulaire avec des sphères, enfin des ronds, on va dire. Chaque fois, j'avais l'impression de voir une culasse de voiture. Bon, parce que, bah oui, mais c'est ça qui m'intéresse.
Moi, je
parce
ne
que
sais
moi,
pas à quoi ressemble une culasse de voiture. Donc,
non, mais bon, écoutez, moi, j'ai mais commencé...
Allez, on va regarder sous le capot. Mais j'exagère.
Vous savez, j'ai une enfance de bricoleuse, pas de garagiste, mais presque. Et j'ai trouvé qu'il était dans la mécanique. Eh ben, un garagiste, ça a quand même les mains dans le cambouis, mon cher Florian.
Mais c'est vrai que...
Quoi ?
Non, mais je sais pas, il y a du sous-texte qui m'échappe, mais c'est pas grave.
Mais c'est vrai qu'il y a cette distance, et en même temps, elle est là. C'est pour ça que je trouvais que la matrice avait quelque chose de plus présent pour moi. Que simplement les gravures ou les lithographies. Et c'est vrai que moi j'attends de voir ce que ça peut être autrement. Parce
bon,
que,
mais attendons, voilà. C'est pas prévu pour l'instant. Alors pour une première approche très partielle d'Anthony Clavé, on peut aller voir cette exposition jusqu'au 25 février à la BNF, au site François Mitterrand, exposition d'Estaing. Vous avez un commentaire à faire à cet Ondoy ou à nous délivrer?
Pas vraiment, enfin,
pas vraiment.
Si, peut-être éventuellement le Curieux des Arts. Qui nous dit qu'il n'est pas d'accord avec Frédéric Bonnet, que ce n'est pas un accrochage à touche-touche et qui est néanmoins très heureux qu'on parle de cette exposition ce soir.
Parce que l'estampe est un art difficile à appréhender.
Tout à fait.
Si, c'est touche-touche, hein, on va y aller avec notre maître, mais si, c'est tout à fait à touche-touche, pardon, hein, de ne pas être d'accord, mais le catalogue raisonné, en tout cas des estampes d'Anthony Clavé, vient de sortir, lui aussi, aux éditions Skira.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute art plastique ce soir, c'est l'ouverture d'un nouveau lieu au Palais de Tokyo, le Toguna, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Palais et la Fondation Bettencourt-Schoeller, qui cherche à mettre en valeur les métiers d'art. Toguna qui est présenté comme une co-création artisan d'art et artiste, une œuvre immersive, dédiée, est-il expliqué à la transmission du savoir. Les commissaires en sont Jean Deloisy et notre collègue Sandra Adam Couralet. Qu'est-ce que c'est que ça? Le premier, le Toguna d'ailleurs, c'est un nom masculin. Alors un nom masculin, Casa Palabra, construction ouverte érigée en général au centre des villages Dogon, se trouvant le long de la falaise de Biandagara. Donc le Toguna au Palais de Tokyo, c'est Florian Guettet qui commence à nous en parler.
Alors, quand je suis arrivé...
Vous avez pris votre respiration, quand
oui.
même.
Hein. Non, je crois que la première exposition qui m'est venue, c'est « Pourquoi pas ?». Pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lisibilité immédiate de ce lieu-là, donc c'est un lieu effectivement de parole, inspiré d'un espace communautaire, mais alors ça n'a rien à voir avec le Togouna malien, puisque normalement c'est un lieu de rassemblement, alors que là c'est un lieu totalement décentralisé, ouvert, avec plusieurs centres, plusieurs périphéries. C'est un lieu normalement très bas pour que justement les gens soient forcés à s'asseoir, alors que là au contraire tout le monde est invité à se lever, à marcher, à s'allonger même. C'est un lieu qui est quand même assez fermé, alors que là, effectivement, aussi, on a une forme d'ouverture générale. C'est un peu un anti-panopticon, en fait. C'est un lieu où on ne peut jamais tout embrasser d'un seul regard, où on est forcé un peu à aller à déambulation, et ça peut, en tout cas si c'est bien utilisé, redistribuer les cartes de la prise de parole publique. Notamment, donc là il y a eu quelques premiers essais avec des conférences qui peuvent avoir lieu, voilà, l'énonciateur, on va dire, le discutant peut être un endroit, mais sa voix est retransmise dans tout l'espace, donc le public n'a plus à être tenu d'être face à lui ou même en relation visuelle, au contact de lui. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, le conférencier peut aussi s'amuser à passer d'un endroit à un autre. Alors c'est un lieu qui ne se donne pas d'un coup, moi c'est même un lieu qui est finalement presque à l'image du savoir, quelque chose qui ne va pas forcément se donner mais résister aussi à la compréhension immédiate. Donc c'est un lieu qui m'a paru énigmatique, pour le bien comme pour le moins bien, mais un lieu énigmatique, c'est-à-dire qu'on commence par ne pas le comprendre. Et il me semble que c'est aussi une des vocations, des prises de parole publiques, des lieux de savoir, des conférences, des débats, qu'on arrive sans forcément tout comprendre et qu'on sorte de là avec une lisibilité un peu plus appuyée. Alors l'énigme en grec, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire à la fois la parole obscure et puis la parole équivoque qui se vaut. Et alors là, l'obscurité, elle y est clairement. Hein. On a des grottes de Hanlore Sacris, Martin Re. On a un vestiaire aussi qui est caché, je ne sais pas si vous l'avez vu. On a une entrée en plume noire assez majestueuse de Jean-Marc Ferrari et d'un plumassier Julien Vermeulen. Donc pour l'obscurité, c'est rempli. Et puis pour l'équivocité, c'est ce principe d'équivalence des lieux de parole disséminés un petit peu de partout. Donc, moi, je me suis senti curieux, en tout cas, dans ce lieu, cet enchevêtrement, pardon, d'angles morts, d'impasses, de secrets aussi, hein, puisqu'il y a plein de pièces secrètes, des interventions assez discrètes à la feuille d'or de Frédéric Richard. Il y a un vitrail aussi sur la mezzanine de Sacris. Donc, c'était plutôt pour moi une invitation. Je trouvais que c'était une bonne mise en condition pour écouter, être en alerte et être un peu désarçonné par le lieu qu'on a en face de soi.
Corinne Rondeau, le Togouna et vous.
Écoutez, j'aimerais que Florian continue. Parce que c'était merveilleux. On peut dire qu'effectivement, dans un lieu la scène d'art contemporain, on puisse avoir justement la rencontre entre des artistes plasticiens et des artisans, en tout cas des gens qui manipulent d'art. Sacrément bien leur boulot. C'est très, 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 très repris. Enfin, on s'y intéresse beaucoup aujourd'hui.
Jean de Loisy n'a pas été le dernier. Hein. C'est quand même une de ses vieilles obsessions.
Oui, c'est une de ses obsessions. Bon, après, c'est vrai que c'est un lieu qui est quand même assez étrange. Moi j'aurais tendance à dire qu'entre la grotte de Lascaux, la grotte de Platon et puis d'autres Ali Baba, bon, il y a à boire et à manger. Mais je suis très contente d'entendre Florian en trouver des éléments extrêmement prometteurs et attendus et peut-être déçus aussi, puisque ça fait partie des choses. Moi, je suis pas, voilà.
Dubitative?
Non, je suis pas dubitative. C'est un lieu qui doit vivre à l'intérieur. Donc, moi, ce qui m'a manqué, c'est de me demander comment la parole passait à l'intérieur. Sachant que l'autogouna, je veux dire, il y a que les hommes qui y parlent au Mali, pendant que les bonnes femmes sont à 50 au soleil, en train de se ruiner la santé, à ramasser du mil. Mais, là, donc, il y aura des femmes aussi, mais qui ne seront pas en train de ramasser des tiges de mil. Donc, c'est formidable. Et je me réjouis, effectivement, d'éventuelles collaborations que je trouve pas toujours très réussies. Je trouvais ça un petit peu terne sur certains éléments de marqueterie, cette manière de devoir être assis, traverser des espaces. Il y a quelque chose qui relève effectivement d'une sorte de métaphorisation, de symbolisation des choses. Bon, voilà, un côté archaïque et en même temps ultra contemporain. Bon, alors voilà, ça, c'est pour moi, c'est tout à fait comment dirais-je.
Quel est le mot ?
Ouais, le mot, c'est oui, bah voilà, ça existe, mais ça je n'ai...
Vous pourriez dire pourquoi pas, finalement, comme
pourquoi
comme Florian,
pas, mais oui, mais pourquoi, c'est tout à fait vrai, pourquoi pas, mais c'est intéressant de se dire qu'il faudrait créer un lieu, mais voilà,
mais après,
il y a tellement de lieux où on veut parler, faire tourner la parole, là, et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi c'est à l'intérieur du palais, je me suis dit, pourquoi ce serait pas une externalisation du palais, cette chose-là, puisque c'est un lieu, normalement, c'est, si j'ai compris, c'est un lieu où on devrait parler, mmh. où on devrait échanger, un lieu où il devrait y avoir du mouvement. Et là, je me suis dit, tout en haut, au-dessus du bâtiment, je ne sais pas, j'ai trouvé que la localisation me gênait un peu, mais après tout, voilà, donc j'ai pas d'avis sur cette
chose. Pas encore, parce qu'il faudra, aller parler et écouter, peut-être.
En tout cas, il y a un écran qui est à côté d'une œuvre qui s'appelle la médula, qui renvoie à du cortex, donc tout ça est très très pensé quand même. Hein.
Frédéric Bonnet, le Toguna.
Oui, je crois que ce lieu, on verra exactement ce qu'il en est
à l'usage,
à mesure qui sera utilisé. C'est ça qui en fera quelque chose d'intéressant ou pas. Et effectivement, ça serait bien que le programme soit à la hauteur des ambitions qui semblent être mises par le Palais de Tokyo dans cette nouvelle structure entre guillemets. Pour revenir sur la question de l'alliance entre les artistes et l'artisanat d'art, il y a quelque chose qui s'appelle le pragmatisme. Je crois que le Palais de Tokyo voulait difficilement se couper de la manne apportée par la Fondation Bettencourt-Schouler. La Fondation Bettencourt-Schouler, qu'est-ce qu'elle défend ? Elle défend l'artisanat. Donc, il leur fallait bien trouver une idée pour que la Fondation Bettencourt n'aille pas voir ailleurs. Ceci étant dit, ce pragmatisme-là, moi je trouve que au final, le lieu tel que je l'ai visité, je l'ai trouvé un peu froid. Encore une fois, j'attendrai de voir comment il fonctionne avec des gens. Je l'ai trouvé un peu froid, mais sur le principe, je le trouve assez intéressant parce que j'aime bien l'idée de dispersion et j'aime bien l'idée de décentralisation potentielle du discours. Après, c'est toujours pareil, à voir comment ça fonctionne parce que on sait très bien que dans les faits, on a quand même toujours tendance à se regrouper. Donc, c'est pensé pour la dispersion. Je ne suis pas sûr qu'à l'usage, ça soit vraiment le cas et que s'il y a un conférencier dans un coin, les gens iront écouter de l'autre coin. Mmh. Ça, je suis pas, j'en suis pas complètement, complètement convaincu. Après, hormis le fait que je l'ai trouvé un peu froid, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez, assez réussies, comme par exemple la grotte d'Anne-Laure Sacriste et de Martine Ray. Martine Ray, je crois qu'elle fait de la laque on retrouve très bien l'univers des pictural d'Anne-Laure Sacriste dans ce travail-là. C'est une grotte assez étrange, luisante, noire, qui happe et en même temps qui rejette un petit peu. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a d'autres choses comme Thomas Turley, sa paroi de cette espèce de broderie architecturale avec des panneaux réfléchissants qui s'animent avec des aimants qui bougent derrière. Il y a plusieurs interventions que j'ai trouvées pas mal. Et voilà, encore une fois, j'attends de voir comment tout ça se met à vivre, en fait.
Oui, parce qu'on n'a pas dit question pratique aussi. Hein, les ouvertures, elles seront aussi en fonction du programme. C'est pas un lieu qui est constamment ouvert. Je crois pas qu'il ait les vocations à l'être. Hein. Il y a des rendez-vous réguliers.
Voilà, il y a des visites organisées aussi.
Oui.
Avec des médiateurs, il y a aussi quand même des œuvres à voir.
Oui, oui.
Tout ne s'est pas fait en tandem artisan-artiste. Hein. Ça s'est fait de façon peut-être plus instinctive et plus intuitive que ça pendant tout un workshop qui a duré un an. Moi, j'aimais bien le travail de Marion Verboom, en fait, hein, qu'on voit dès l'entrée, avec ce monstre d'abord sur la paroi et ensuite la médula dont a parlé Corinne. Et c'est vrai que ça annonce bien ce principe aussi d'accumulation, stratification, qu'il y a un peu dans toutes les pièces. Et moi, bon, la découverte, c'est Thomas Turley, effectivement, à la fois sa broderie mécanique et puis ce lieu très inconfortable de gradins. Enfin, moi, les gradins trop propres de François-Xavier Richard, Dimitri Imka et Pierre-Henri Bessac, ça m'a laissé plus froid. Alors que là, on a donc sur une sorte de construction précaire en bambou des coffrages de frigos qui ressemblent à des sarcophages qui sont donc ce qui vient manger la chair. Donc, il y a une sorte de boucle bouclée dans cette métaphore-là. et où effectivement, là, à mon avis, on ne peut pas rester de toute façon pendant une heure assis dessus, donc ça poussera aussi peut-être à une forme de mouvement, et puis il vient un peu salir ce lieu-là, et voilà, je pense que c'était tout à fait approprié. Et puis juste un dernier point, pour la froideur, il y a quand même une part très importante de la lumière. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait, vous, la visite. Moi, j'avais demandé à avoir des photos exprès, parce que quand j'y suis allée en pleine journée, etc., et la lumière, c'est vrai que vient réchauffer ou vient dramatiser aussi beaucoup, notamment avec les cifs suspendus de Jeremy Maxwell.
Bon, le Toguna, on va le découvrir au fur et à mesure des semaines et des mois, ce nouvel espace du Palais de Tokyo. Concluons avec le jeu de la dispute, en commençant avec Grégoire Diffior par un appel de la question d'hier pour connaître la réponse. Grégoire.
Dans le film chronique du réalisateur Michel Franco, dans quelle unité hospitalière l'infirmier incarné par Tim Roth travaille-t-il? Et la réponse était l'unité des soins palliatifs.
On fait gagner ce soir des invitations pour Anna, un film d'Andrea Palauro avec Charlotte Rampling qui est sorti aujourd'hui. Quelle est la question, Grégoire?
Qu'a reproché Charlotte Rampling en 2016 aux personnes déplorant l'absence d'acteurs noirs dans les nominés aux Oscars et appelant au boycott de la cérémonie?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter les émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Pas de dispute demain, vous le savez, mais une émission spéciale de 18h20 à 20h, co-animée par Julie Gacon et Hervé Gardette, en public du centre Pompidou dans le cadre de la Nuit des Idées. On vous y attend. Prochaine dispute, donc, ce sera vendredi à 19h en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Émission cinéma avec Lucille Como, Florence Colombani et Antoine Guillot. À notre affiche, Les Quatre Sœurs de Claude Lanzmann, La Douleur d'Emmanuel Finkiel et Three Billboards de Martin McDonagh.